Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Dans l'univers des comédiens, force est de constater que certains prénoms prédestinent à certains rôles. Par exemple, on remarquera que peu d'actrices se prénomment Violaine. Violaine, ça inspire immédiatement un film débordant d'abus sexuels et de détestation. Pas le genre de cinéma qui déplace les familles le samedi soir. Un autre exemple, Humphrey. Certes, de l'autre côté de l'Atlantique, ça jette Humphrey Bogart. Même une Lorraine Bacall n'y resta pas insensible. Mais en français, Humphrey, c'est tout de suite plus trivial. Ça appelle le Humphrey bien une petite pizza, moi. Résultat, aucun Humphrey dans le cinéma français, mais beaucoup dans le milieu pizzaïolo, en revanche. Mais si vous vous appelez Ludivine, ah, alors, comme par miracle, tout s'illumine. D'abord, on vous surnomme rapidement la divine. Et puis tiens, comme c'est étrange, on vous propose de jouer dans une série qui a pour décor la maison du bon Dieu en ce bas monde aux côtés d'un jeune pape dont le prénom est hop. Toute ma démonstration s'effondre, n'est autre que Jude, soit Judas, alias la balance, celui qui a envoyé notre Seigneur se faire saigner. Mais attendez, saigner comme Ludivine ? Non, Antoine ! Pas saigner, saigner. Ah, d'accord, Ludivine saigner. Bon, on l'a échappé belle, hein. Ludivine saigner est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Paune.
Et bonjour, Ludivine saigner.
Bonjour Antoine, merci de ne pas écorcher mon prénom.
Oh, je vous trouve...
Ni mon nom.
Je vous trouve bien réveillée, tiens. Toute souriante et réveillée. Pourtant, vous avez célébré hier soir, m'a-t-on dit.
Je suis souriante, oui, réveillée, oui. Ça reste à prouver.
Oui, car c'était l'avant-première hier soir de ce New Pope.
Absolument,
nous
avons festoyé.
Parlez bien. Avant de parler de The New Pope, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à mes côtés, celle qui est assise à la gauche du père, Charline Roux.
Ah oui, donc vous n'êtes pas seulement plusieurs dans votre tête, vous êtes en plus complètement mégalo, Antoine.
Exactement.
Bonjour Ludivine.
Et merci de reposer Charline. Les petites burettes sur la table à côté de vous. Voilà. Au menu également.
Je peux me relever ou pas de... Ou je reste à genoux pendant toute l'émission?
Non, relevez-vous, je vous en prie. Au menu également de Pop Pop Pop, la superstar de l'animation japonaise, Makoto Shinkai. Laurent Vallière est allé à la rencontre du réalisateur qui a attiré plus de 15 millions de spectateurs au Japon avec son précédent film. Il est de retour avec Les Enfants du Temps, interview à suivre dans la suite de Pop 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 et bien évidemment, comme chaque vendredi, votre dose hebdomadaire de n'importe quoi.
Il paraît que c'est toi l'homme qui ken plus vite que son ombre.
Ouais, c'est moi. Tiens, regarde cette chèvre là-bas. Bim ! Dans le mille !
Mais avant ça, Ludivine Saigné, ici, il existe une question. Une question sacrée. Et cette question, c'est... Ludivine, pour vous, c'est quoi la pop culture ? Alors, merci Dieu, mais pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses ludivineuses, saniérisantes, popisées, papisantes, papales et même pipotées. Et parmi mes préférées, il y a celle de Paolo Sorrentino, le réalisateur de la série. Écoutez.
Ma non lo so, però penso che...
Je pense que c'est... qui est ce qui m'a permis de faire ce travail parce que je me suis formé avec la culture pop.
Voilà. Et pour vous, Ludivine, ça représente quoi la pop culture ?
Pour moi, la pop culture, c'est des très bonnes œuvres qui sont dignes d'être connues de tous. Mm-hmm. Les Beatles, c'est la pop culture, par exemple. C'est excellent et pourtant c'est consommable par tous. Je sais pas, voilà.
Quelque chose qui touche à l'universel, donc d'une certaine manière.
Oui, complètement, ouais.
Okay. Et qui passe par la musique, par le cinéma, par la littérature, par tout ce qu'on veut.
Ouais.
Tous les biais possibles.
Oui.
Moi j'aime bien le excellent mais consommable par tous.
Excellent mais consommable par tous.
Oui, c'est ce que Ludivine vient de dire.
Oui. Et ouais. Vous me dites ça en me regardant, donc je prends ça à titre personnel, évidemment.
Personne ne vous aime, Antoine.
Mais peut-être que vous-même êtes une définition envisageable de la pop. En
si moi j'en ai une. Mais non,
peut-être que vous-même en êtes une définition.
Oh, Ludivine, vous cherchez à me flatter, là.
Je commence tranquille.
Je rougis. Bon, la pop, le pape, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après. Bonhomme, c'est un nouveau morceau signé Philippe Catherine.
Oh, j'adore.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est ça. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas ce que je vois. Ça met en joie, tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi. En toi.
Tu es bête?
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie. Vous n'avez pas tout saisi, ce que vous avez compris. Le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis? Pourquoi je suis? Toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes. Et toi, tu pars avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.
Bonhomme, extrait des confessions du génial Philippe Catherine. C'est pas Ludivine qui va me contredire. Et non. C'est son dernier album. Vous écoutez Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes aujourd'hui avec la Nathalie Portman du film Léon.
Hé, hey, vous dites rien à mon père pour la cigarette, ok?
Elle parle drôlement bien français, Nathalie Portman. Mais grâce à qui? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait du Divine, c'est votre portrait, mais... Et c'est signé Charline...
Aujourd'hui, une invitée qui ne le sait pas, mais a été ma meilleure copine de télé préférée. Alors certes, copine imaginaire, hein, un personnage de fiction, mais quand même on a bien rigolé. Car oui, notre invitée a d'abord été pour moi, je le confesse, même si elle avait déjà donné la réplique à Gégé dans Cyrano, Anne-Sophie dans La Famille Fontaine, dont les 30 épisodes ont égayé les fins d'après-midi, enfin mes fins d'après-midi au début des années 90. Je suis obligée de le confesser.
J'en reviens pas.
Alors comme une bonne amie, j'ai suivi de très près tout ce qu'elle a fait après, et franchement, ma pote d'enfance est défonce. Alors pardon, du coup, je reparle comme dans les années 90. Chez Ozon, dans Goutte d'eau sur Pierre Brûlante, 8 femmes, Swimming Pool, chez Miller, dans La Petite Lily, Un Secret, chez Honoré, dans Les Chansons d'Amour, Les Bien-Aimés, et puis chez Chabrol, chez Richer, chez Corneau, chez Tamaori, chez Koreeda et désormais chez Sorrentino. Alors quand on accroche autant de noms qui brillent à son palmarès, c'est que soi-même on shine bright like a diamond. Donc concernant les amis qui rendent fiers, bah vous avez Laurent Chalumeau, Antoine, et bah moi, même si c'est pas pour de vrai, j'ai Ludivine Sagnier.
Merci Charline. Ludivine, ça fait quel effet d'être la meilleure amie imaginaire d'une Charline Roux?
Bah, en fait, je pensais pas que des gens se souvenaient de cette série.
J'ai vu si tous les épisodes.
Série.
Oui, il y a eu très peu d'épisodes. Ouais.
Voilà, oui, il y avait 30 épisodes. Effectivement, La Famille Fontaine, c'était dans Giga. Vous regardiez Giga?
Absolument.
Voilà, ça me rappelle ma jeunesse. Bon,
Ludivine, je vous emmène maintenant dans le confessionnal de la pop culture. C'est l'heure de votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur la recherche du temps perdu de Marcel Proust, paru entre 1913 et 1927. Charline, dis-moi au moins, le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Oui. Alors, défi, résumez-nous en quelques mots les 2400 pages de la recherche.
C'est-à-dire les 7 tomes, du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermande, Sodome et Gomorre 1 et 2, La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé.
Exactement.
Ben non, je peux pas.
Merci. Alors, auriez-vous, Ludivine, la gentillesse de nous en lire quelques lignes pour que nous retrouvions ce parfum proustien?
Alors... Ça et là, à la surface, rougissait comme une fraise, une fleur de nymphéa, au cœur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs, plus nombreuses, étaient plus pâles, moins lisse, plus grenu, plus plissé, et disposé par le hasard, en enroulement si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive, comme après l'effeuillement mélancolique d'une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées.
Extrait du côté de chez Swann, le premier tome de La Recherche, choisi par Ludivine Sagnier, ouais. Comme livre de chevet, de référence. Pourquoi est-ce que vous avez cette passion pour cet écrivain moustachu ?
J'ai pas une passion pour cet écrivain moustachu. J'ai une passion pour cette œuvre en fait que j'essaie de finir en fait, que j'ai commencé il y a plusieurs années. Et pour moi, ça peut être un exemple de pop culture parce que c'est vrai que c'est une œuvre qui est un chef-d'œuvre, qui est extrêmement dense et concise, etc. Mais en fait, ce que ça raconte. C'est très universel, c'est une façon de raconter l'intime qui est effectivement hyper, hyper détaillée, c'est vraiment de la dentelle et tout ça. Mais ce que ça raconte, c'est accessible. Ouais. La forme l'est moins, je vous le concède. Ouais. Mais ce que ça raconte, c'est accessible et moi, je prends des notes au fur et à mesure des volumes et en fait, j'arrive du coup à filtrer la langue et la parole de Proust et avoir des références pour moi, pour ma vie au quotidien. Mmh. Et c'est comme un peu mon pote qui me donne des conseils. Alors là, c'est vrai que vous avez choisi, un paragraphe qui est quand même dans une description un peu lyrique, etc. Pour moi, ça reflète pas forcément l'idée de cette œuvre-là parce que pour moi, en fait, ce que j'aime chez Proust, c'est comment il décrypte les comportements des gens et quels sont les mécanismes internes psychologiques qui font que telle ou telle personne se comporte de telle ou telle manière. C'est un peu de l'ethnopsychiatrie, c'est les prémices de la psychanalyse, etc. Et c'est ça qui m'intéresse chez lui. En général, moi, ces passages-là, je passe très vite.
C'est jamais du temps perdu de lire La Recherche, si je comprends bien.
Non, parce qu'en fait, parfois, je me dis, j'en ai marre, c'est trop long, je passe à autre chose, je lis un autre livre. Et puis, au bout d'un moment, ça me manque et j'ai besoin de retrouver, parce que son intelligence nous tire plutôt vers le haut, quand même.
Bien. Alors, pour le film, votre choix s'est arrêté sur Rocky Horror Picture Show. C'est un film réalisé par Jim Sharman, sorti en 75, adapté de la comédie musicale de Richard O'Brien, The Rocky Horror Picture Show. Charline, voilà un film qui a rendu dingo une génération entière. Mais pourquoi cela est-il est-ce ?
Parce qu'il n'y a rien de mieux que les gens bizarres et ce film en est rempli, surtout le château dans lequel une nuit d'orage, Janet et Brad, un jeune couple fraîchement fiancé, est obligé de se réfugier après une panne.
You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp again. The Rocky Horror Picture Show is wonderfully weird.
They're probably foreigners with ways different than our own.
It's a trip to transsexual Transylvania. See the Rocky Horror Picture Show.
Let's do the time warp again.
Ludivine Sagnier, vous aviez 3 ans à la sortie du Rocky Horror Picture Show. On peut parler d'un traumatisme majeur ?
Non, vous savez bien, Antoine, que parce que j'imagine que vous l'avez vu également, qu'en fait, il se joue à Paris depuis les années 80, parce que le film, je ne sais pas si c'était un grand succès en salle, mais en fait...
Pas à la sortie, non.
Je suis pas sûre, mais en fait, depuis les années 80, il se joue dans une salle à Paris, qui est le Studio Galland à Saint-Michel. Et il se joue dans une salle à Londres, une salle à New York, une salle, je crois, à Los Angeles aussi. Pour les autres villes, je sais pas. Et en fait, toutes les semaines, je sais plus si c'est le vendredi ou le samedi soir, il y a une projection du film et qui est une projection toujours particulière parce que les gens qui vont le voir connaissent le film par cœur. Ils viennent avec des accessoires.
Comme ça semble être votre cas puisque je vous voyais mimer.
Ouais, moi depuis de 13 à 18 ans, j'y suis allée beaucoup de fois. Et c'était la
avec
sortie.
Avec des accessoires.
Bah bien sûr, c'était la sortie transgressive. Je faisais croire à mes parents que j'allais dormir chez une copine. On allait au Studio Galland et après on revenait à pied. J'habitais à Sèvres. on faisait tous les quais de la Seine jusqu'à chez nous, mais en même temps, on était tellement, on avait l'impression de s'être émancipé sexuellement alors qu'on avait 13 ans et que vraiment, on en était loin. Mais c'est un film avec un souffle libertaire immense. La musique est dingue, la musique composée par Richard O'Brien lui-même, elle est folle. Et en fait, je trouve que c'est un film qui vieillit pas. C'est kitschissime. C'est gender fluide, c'est en fait ça passe toujours très bien.
Bon, courez tous le voir et le coup du j'irai dormir chez une copine, je le faisais aussi moi. Ça marchait très bien. Pour la série, vous avez choisi Feud, hein, créé par le papa de Nip Tuck, Glee, American Horror Story, Pose, The Politician. Bref, l'excellent Ryan Murphy, une série diffusée en 2017 sur FX.
FX.
Charline, si je vous dis que c'est la première fois que j'entends parler de Feud, continuez à m'adresser la parole.
Je sais pas, peut-être qu'on va s'engueuler, ce sera de bon ton pour pitcher cette série conçue comme une anthologie autour de ce thème. La saison 1 raconte la rivalité légendaire entre les actrices Joan Crawford, jouée par Jessica Lange, et Bette Davis, jouée par Susan Sarandon, sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane.
The 1962 Oscars. That's when things took such an ugly turn.
Reviews have been uniformly good,
but they're all about her.
Look at you. You're single, lonely.
One day you wake up and all you've got left is yourself.
Both of them were in the same boat.
We thought it signaled a sea change. It didn't turn out that way.
Good luck.
Je vais me jeter dessus parce que j'ai tellement aimé ce film. Tellement aimé ça.
Donc, c'est incroyable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, donc c'est quand même, j'ai cité deux films. Et
avec Susan Sarandon.
Parce que c'est une de mes actrices préférées.
C'est pour ça ce choix feudien.
C'est complètement feudien, ouais. Non, mais parce que effectivement, j'adore ce film, j'adore les actrices qu'elles jouent, et c'est des actrices extraordinaires qui jouent des actrices extraordinaires. Donc c'est un peu, j'avoue.
C'est la vache qui rit, quoi.
Non, mais bon, c'est l'actrice qui regarde les actrices, les actrices mises en abîme, un peu évidente. Mais c'est tellement jouissif. Mmh. Les personnages sont incroyables. Ce que ça raconte sur l'âge, sur la place de la femme dans la société américaine, sur la compétition en général, la rivalité chez les acteurs. Je me suis régalée. C'est une petite série, hein, il n'y a que quelques épisodes.
Il devait y avoir une saison 2 qui, a priori, devait être sur Charles et Diana. Et pour l'instant, qui a été mise sur pause, donc je sais pas.
En tout cas, c'est vraiment un petit bijou. Moi, je me suis bingé la série en une nuit. Hein.
Vous m'avez convaincu, je vais m'y précipiter. Merci, Ludivine. Merci. Ludivine, terminons cette pop-list avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci.
Manhã, tão bonita manhã. Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás.
Manhã de Carnaval, interprété par Carlos Jobim, du compositeur brésilien Luiz Bonfá et du parolier Antonio Maria, sorti en 1959. Ma porca esta cansao particular.
Porque esta cansao? Porque eu gosto muito.
Mm-hmm. Ah oui, je suis bien d'accord.
Non, mais c'est parce que bon, je pense que c'est aussi l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Je suis un peu en mania de Carnaval. Je sais pas si vous avez vu le film Orfeo Negro.
Ouais.
Et en fait, c'est la chanson de fin après une nuit chaotique, bouleversante, et en même temps, colorée, sensuelle, épuisante.
Tout ça cette nuit.
Non, je raconte.
Bravo.
C'est le matin, en fait. C'est le petit jour. Ouais. C'est le petit jour après la fête. C'est cet état d'épuisement, mais de douceur et d'acceptation du nouveau jour qui se lève. Ça me touche énormément parce que ce film est un chef-d'œuvre, mais parce que cette chanson l'est aussi. Et en fait, ouais, il faut accepter qu'un autre jour se lève.
Bien.
Et donc, vous parlez extrêmement bien portugais.
Pouquinho.
Quoi mieux que moi, c'est ça? Laissons un autre jour se lever. Je résume Marcel Proust, The Rocky Horror Picture Show, Feud et Mania de Carnival. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
You've seen all kinds of movies.
That's when things took such an ugly turn.
It's a trip to transsexual Transylvania.
Mania tão bonita.
Look at you. You're single, lonely.
Ça et là, à la surface, rougissait comme une fraise, une fleur de nymphéa.
Both of them were in the same boat.
They thought it signaled a sea change. It didn't turn out that way.
Good luck.
Vous imaginez,
ils sont bons les monteurs.
Ouais. C'est Ghislain Bitou-Fontanus, notre célèbre réalisateur. Vous imaginez un jour passer du Marcel Proust dans un mixeur?
Écoutez, non. Moi, je suis ouverte à tout. Je pourquoi pas?
Bon, ben, c'est fait, de toute façon. Bien, Kevin Saigné, on va parler de New Pope, du New Pope, dans la suite de Pop-Pop-Pop, hein, juste après un extrait de la BO de la série Sophie Tucker, Good Time Girl.
When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. About a year since I became a snob, decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, about it. We're just gonna play it safe, do what we know, play it cool, lay low, not tell you about it. And here I am playing by myself, me and my superiority complex.
Et Charlene Haut. The New Pope, Insta et film sont les premiers résultats qui tombent quand je tape votre nom sur Google. Et ça tombe bien car nous allons parler de la nouvelle saison de The New Pope. Saison 2 de la célébrissime série créée par Paolo Sorrentino, sauf que le titre change. La première saison avait pour titre The Young Pope, la seconde The New Pope, il était jeune, il est devenu nouveau Ludivine. Expliquez brièvement ce miracle à tous ceux qui n'ont pas encore vu mais qui ne demandent qu'à voir et croire.
Alors, je voudrais pas non plus spoiler parce que je pense que c'est une série qui se regarde quand même du début de la saison 1 jusqu'à la fin de la saison 2. C'est pas le genre de série qu'on prend comme ça en cours. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de la saison 1, Lenny Bellardo, a.k.a. Jude Law, a.k.a. P13, a une attaque. Et en fait, il tombe dans le coma. Mmh. Et donc, quand on commence la saison 2, en fait, ça fait 9 mois qu'il est dans le coma. Le conclave sait plus quoi faire. Il faut assurer l'intérim, mmh, si j'ose dire. Et du coup, il décide de chercher un nouveau pape.
Voilà, mais c'est très bien. Hein, voilà. On peut se contenter de ça.
Oui, c'est très bien. Mais alors, du coup, si on passe du young pop au new pop, je peux poser la question,
oui,
quoi. Ce serait pas la saison de la maturité.
Mais pourquoi pas?
Ben oui,
pourquoi pas.
Mais ce qui en plus n'est pas complètement faux dans le cadre de cette saison 2.
Non, mais c'est carrément le cas, effectivement. Ouais.
Bon, je rappelle le pitch. Regardez, je m'en charge. P13 est donc dans le coma, comme vous venez de le dire. Après un premier conclave tumultueux, comme vous venez de le rappeler, Sir John Brannox, un aristocrate anglais modéré, charmant et sophistiqué, est placé sur le trône papal. Ce nouveau pape parfait dissimule en fait des secrets et fait preuve d'une certaine fragilité. Peut-on dire que c'est une série catholique?
Catholique.
Oh, d'accord. J'ai essayé.
Non, mais ce que vous disiez est extrêmement vrai. C'est pas une série qu'on peut regarder comme ça en la prenant en cours. On peut aussi parler de drame mystique ou même il y a un petit côté thriller. En fait, il y a une vraie intrigue à suivre et qui est hyper compliquée.
Ouais, il y a une vraie intrigue. Elle est pas compliquée. C'est pas plus compliqué que House of Cards.
Non.
Bah... C'est les arcanes du pouvoir.
Ouais, bah oui.
Etc. C'est qui va gérer
House
le pouvoir.
Of Cardinals.
Bah, c'était ça a déjà été fait malheureusement.
Ah, excusez-moi.
Mais elle est pas mal parce que c'est proche de la vérité. Et puis après, il y a des intrigues secondaires dont moi je fais partie, qui accompagnent le récit principal. Mais en fait, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a de la comédie, il y a du mystère, il y a de la politique et il y a aussi une vraie réflexion métaphysique. Sur l'amour en général, mmh. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Paolo Sorrentino est un non-croyant. Mmh. Il a été chez les jésuites, etc. Mmh. Oui, mais en même temps, moi, je trouve qu'il dresse un portrait de l'Église qui est pas si accablant ça, puisque le message, c'est quand même qu'est-ce que c'est l'amour? De quoi on parle quand on parle d'amour? C'est plutôt beau, moi je trouve. Et puis en plus, le portrait qu'il fait du Vatican est plutôt bien en dessous de la réalité, qui est quand même super vicieuse, quoi.
C'est-à-dire que l'actualité a prouvé ça, ouais.
Mon avis, mesdames, c'est qu'une bande-annonce vaut mieux qu'un long discours. Écoutez.
I'm irresponsible. I'm indolent. I'm pompous. I'm conceited.
Have you finished, Holy Father?
Is that not enough?
See you, there's some duty.
Is there any possibility Pius the 13th could wake up?
Oh, continue to need.
He is still alive, even though he doesn't know it. Doesn't matter. I am the Pope.
The New Pope, saison 2, donc c'est sur Canal à partir de lundi à 20h50. C'est réalisé par Paolo Sorrentino, c'est avec Jude Law, John Malkovich, vous, Ludivine Sagné, Cécile de France et Diane Keaton, sans parler des autres. Alors avant d'aller plus loin, êtes-vous d'accord avec nous pour dire que The New Pope, comme avec The Young Pope il y a quelques années, on tient une quintessence de la pop culture, c'est-à-dire l'Église vue par les yeux d'un artiste contemporain?
Là, on est en plein dedans.
On est au cœur du sujet,
ouais,
on est d'accord.
C'est vrai.
Vous avez parlé des petits nouveaux, donc John Malkovich, qui est le nouveau pape. Il n'est pas le seul au casting. Les noms de Sharon Stone et Marilyn Manson ont aussi été dévoilés. Des hérétiques, faut quand même le dire. Vous n'avez pas peur que le clergé ventile un peu?
Ben non, pourquoi pas?
Vous avez eu des retours d'ailleurs?
Personnellement, non.
Non.
J'ai pas eu de retour, mais en fait, Sorrentino, quand il a croisé le clergé à différentes reprises après la saison 1, les cardinaux et les prêtres étaient plutôt complices et étaient plutôt amusés par sa description de l'Église. Et quant à Marilyn Manson et Sharon Stone, effectivement, bah oui, on est là pour déjouer les pièges. Donc oui, effectivement, des personnalités qui pourraient passer comme hérétiques, finalement, sont de très bons conseils pour un chef d'État un peu perdu et mélancolique.
Je sais qu'à la lecture du scénario de The Young Pope, vous étiez devenu Young Pope addict au point de prier, avez-vous dit, pour pouvoir être admise au casting. Est-ce que vous avez prié aussi pour cette nouvelle saison?
Pas du tout.
Non.
non, c'est vrai que je me suis dit, tant qu'à faire, s'il faut que je prie, C'est à ce moment-là, quoi. Mmh. Et c'est vrai que je me souviens, quand j'ai appris que j'avais le rôle, je passais devant la mosquée et je me suis dit, Dieu est grand. voilà, mais depuis ce jour-là, j'ai plus jamais prié.
C'est votre deuxième collaboration avec Sorrentino, de fait. On avait rencontré Paolo Sorrentino l'année dernière, ainsi que Tony Servillo, qui jouait son Berlusconi. Et mmh. Servillo nous disait qu'il ne pouvait pas lui refuser grand-chose au bout de 6 collaborations. Pour vous, c'est comment de travailler avec Sorrentino et qu'est-ce que vous ne pourriez lui refuser ?
Moi, je pourrais pas lui refuser grand chose non plus, malheureusement, mais ça m'empêche pas de me battre. Je suis un peu rebelle, moi.
Ouais.
Donc je peux, je peux partir à l'affrontement s'il y a quelque chose qui me dérange, mais sur le principe, je lui ai cédé quand même beaucoup.
Sorrentino a tendance, dans son cinéma, comme dans cette série, à explorer surtout la psyché masculine. Est-ce que c'est frustrant pour une comédienne?
Il le fait plus, il a développé quand même un peu plus la psyché féminine, notamment dans le personnage de Cécile de France, qui a un peu plus de... On la voit plus dans son intimité, alors que dans la première saison, elle était juste, dans le cabinet du pape, mais elle avait pas de vie à elle. Donc il a vraiment développé son personnage. Et moi, ma psyché, c'est vraiment, moi, je suis un personnage damné, on va dire. C'est une exploration un peu punitive, mais en tout cas, c'est une exploration. Maintenant, c'est vrai que le Vatican est un monde masculin. Ouais. Donc, vous allez voir, il y a quand même une volonté de la gente féminine de prendre le pouvoir au Vatican, notamment des bonnes sœurs qui font la grève et qui exigent la parité. C'est assez croustillant comme moment. C'est un de mes moments préférés. Bon, donc, ici à tel, mais il peut pas non plus déborder.
Bon, en attendant, bonne année, puisque nous sommes début
oh
janvier.
Mon Dieu. Vous avez toujours sur vous, paraît-il, un petit carnet dans lequel vous consignez vos souvenirs de tournage. Si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que vous avez consigné sur le tournage de The New Pope ?
Indiscret, non ?
Oui, c'est pour ça que je dis si c'est pas indiscret.
C'est pas grave, je vous dirai ce que je veux. non, c'est vrai, j'aime bien avoir j'ai toujours des moleskines sur les plateaux. J'ai ma petite rangée de cahiers chez moi. J'ai consigné des idées sur le personnage, des façons de, même parfois, parce que en fait mon personnage est vraiment douloureux et parfois j'avais besoin d'évacuer parce que le tournage était difficile pour moi et donc j'avais besoin d'analyser un peu. Ça permet d'alléger les émotions qui nous traversent, parce qu'en vrai, elles nous traversent quand même, quoi. Donc, quand c'est douloureux, c'est lourd.
Ludivine, dans The Young Pope, vous étiez, et vous êtes toujours Esther, la femme d'un membre de la garde suisse. Dans The New Pope, vous êtes donc toujours Esther, mais un personnage un peu moins young, puisque la saison 1, c'était il y a quelques années.
Ouais.
Qu'est-ce que votre personnage a de new?
Ce qu'elle a de new, c'est qu'elle a plus rien, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est fait quitter par son mari, qui n'a pas supporté qu'elle crie haut et fort qu'elle avait été fécondée par l'Immaculée Conception en la personne de Pie XIII. Et donc elle se retrouve en fait délaissée par tous. Donc elle est seule avec son enfant et elle fait des ménages dans une église et en fait elle va aller de trahison en trahison, tout le monde va l'humilier et en fait cette espèce de descente aux enfers dans une précarisation sociale, affective, va la faire glisser doucement vers une idée de la foi de plus en plus toxique en fait. Et je trouve ça intéressant de raconter aujourd'hui la radicalisation d'une âme via une petite blonde catholique et qui finalement raconte un processus qui est très actuel et qui se trouve pas forcément à cet endroit-là.
Ouais. Mais c'est étonnamment le personnage qui porte le plus de stigmates, alors que c'est la seule qui n'est pas engagée en religion, en tout cas professionnellement, on entend.
Ouais, c'est vraiment, on avait envie de ça avec Sorrentino pendant l'écriture. Il m'a quand même pas mal, on s'est pas mal concerté et j'étais très flattée. Qui me demande mon avis et on avait envie de salir un peu le côté virginal.
Elle était très pure,
était très pure, voire mièvre, naïve et tout ça. Et on avait
candide.
On avait envie de la souiller un peu.
La série, comme à peu près toute l'œuvre de Sorrentino, a été précédée d'une odeur de soufre, d'irrévérence. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser que ces intrigues et le business du Vatican, du New Pope, sont peut-être un peu en deçà de la réalité.
Je ne sais pas si vous avez lu Sodoma, qui raconte une certaine partie de la vie du Vatican. On est quand même, quand on voit les actualités, on se dit, putain, il était sympa, Sorrentino, parce que c'est vraiment trash ce qui se passe là-bas. Je suis d'accord.
Ça vous désole, ça vous laisse indifférente.
Non, parce que
vous avez été très croyante, je crois.
Oui, mais je pense que dans toute culture où il y a une privation de liberté, il y a forcément une dérive un peu décadente, quoi.
Mmh. Et puis là, c'est pas la foi qui est attaquée. En l'occurrence, c'est l'institution. Donc ça laisse la liberté de.
Je sais pas si on tape vraiment sur les chrétiens. C'est juste, l'institution séculaire qui a besoin d'être un peu secouée, quoi. Mmh.
Là, autant la secouer avec un Jude Law, non? The New Pope, c'est sur Canal à 20h50 lundi prochain, le premier épisode. Ma chère Ludivine, ne bougez pas, cette émission n'est pas terminée. On vous a demandé plein de choses. Moi, je vous demande, est-ce que vous savez faire ça? Ah, ça, il était beau.
Il était un peu aigu.
Très beau.
Un peu aigu, non? Il me plaît beaucoup. C'est pour lancer les Pop News.
L'excellent Vincent Lacoste joue les trentenaires, ayant un peu de mal à grandir dans Mes jours de gloire d'Antoine de Paris.
Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, je suis acteur. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai fait pas mal de films quand j'étais petit.
Allez, debout chérie, j'ai un patient qui arrive dans 5 minutes. Allez.
L'appartement a été saisi, monsieur Palatine. Il ne vous appartient plus.
Qu'est-ce qu'il me fait, ce con ?
On n'avale pas la carte des gens comme ça.
Non, je suis désolée, c'est une décision de justice.
Maintenant, je veux une carte maintenant.
Bien sûr, tout va bien, tout va bien.
Enfin, tout va moyennement bien puisqu'il retourne vivre chez ses parents et tente de se relancer. Mes jours de gloire avec également Emmanuel Devos et Christophe Lambert. Ce sera le 28 février au cinéma.
Un très chouette challenge signalé par une fidèle popopienne, la jeune Audrey Normande. Pour ne pas la nommer, lancée sur Babelio, le site dédié à la littérature et qui permet de créer, partager et commenter des bibliothèques. Pour ce challenge, il vous faut aimer lire et exercer votre esprit critique. 30 auteurs classiques vous sont proposés, époque et nationalité confondues. Pour chacun d'eux, vous êtes libre de choisir l'œuvre que vous souhaitez redécouvrir du 1er janvier au 31 décembre 2020. Chaque lecture critiquée fait remporter un point et chaque point équivaut à 0,10 centimes d'euros reversés dans une cagnotte collective. À l'issue du challenge, l'intégralité des bénéfices sera reversée sous forme de dons à l'association Savoir pour réussir Paris qui lutte contre l'illettrisme. Tous à vos bouquins et on vous met le lien de ce challenge solidaire sur la page de Popopop sur franceinter.fr.
Et un nouveau single solo pour Michael Stipe, quelques 8 ans après la fin de REM et 25 ans après la sortie du magnifique Monster. Ce nouveau titre de Stipe s'appelle Drive to the Ocean et il traite du changement climatique. Ça donne ceci. We stand at the water, the wind and the sun. Where all of God's creatures are gathered as one. Surfacing. À noter qu'une partie des bénéfices de cette chanson ira à l'association Pathway to Paris qui lutte pour la mise en place des objectifs climatiques de l'accord de Paris.
France Inter. Popopa. Antoine Decaune.
Thank you, Charlene.
Michael Stipe?
Non, pas du tout. Jude Law, bien sûr.
Tellement pas.
Oh.
Pardon.
Ludivine, c'est le cri du cœur. Ludivine, ça y est. Vous restez avec nous, l'interview du réalisateur Makoto Shinkai par Laurent Vallière. C'est dans la suite de Popopop. Juste après Blinding Lights, c'est extrait du très très attendu nouvel album de The Weeknd. I've been Lights, c'est extrait du nouvel album du Canadien The Week. Et je dis The Week car il manque un E entre le K et le N. C'est un album qui sortira, eh bien, on ne sait pas quand, parce qu'il n'est pas encore annoncé, figurez-vous.
Voilà.
Voilà, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Eh oui, car nous sommes toujours en compagnie de Ludivine Sagnier, venue nous présenter The New Pope, et vient de nous rejoindre l'homme qui a rencontré l'homme qui connaît le beau-frère du gendre du réalisateur, qui réunit 15 millions de spectateurs juste avec son dernier film, et ça simplement au Japon. Bonjour Laurent Vallière.
Ah, konnichiwa. Non, c'était pour montrer que je parlais japonais et que l'interview était...
D'accord, ça voulait dire...
Je crois que ça veut dire bonjour.
Bonjour, bonjour. Vous avez donc rencontré Makoto Shinkai. Expliquez-nous en quoi c'est un événement pop.
Bah, on pourrait dire par les chiffres de ses films qu'il est le successeur d'Hayao Miyazaki. Si je vous dis 15 millions de spectateurs au Japon uniquement, ça c'était pour son précédent film qui s'appelle Your Name. En gros, c'est plus que tous les films de Miyazaki à part Le Voyage de Chihiro. Alors, il a réalisé que 5 films, mais désormais, chacun est un événement. Un phénomène presque générationnel, il y a des ados qui vont en pèlerinage, là ouais. où était, ou là où situait son film Your Name. Mm-hmm. Et puis les ados se reconnaissent aussi dans ces histoires à la fois romantiques, fantastiques et écologiques. Alors il ressemble à un éternel ado avec sa coupe au bol, ouais. Ses petites lunettes rondes, son sweat noir, très Kenzo on va dire. Il a conservé aussi, malgré ses 43 ans, toute une naïveté, on va dire, lorsqu'il parle. Il est né à Nagano, dans les Alpes japonaises. Ses personnages sont justement toujours des adolescents. Et son nouveau film, qui est sorti mercredi, Les Enfants du Temps, se déroule dans un Tokyo hyper réaliste, où la pluie ne cesse pas de tomber. Il y a un adolescent.
Comment ? C'est un pur déluge.
C'est un pur déluge pendant presque tout le film. Et alors, il y a un ado. Paumé, désabusé, on pourrait croire que c'est lui, quand il était jeune, en fait, arrivé de la campagne, qui a du mal dans cette grande ville, mais rencontre une jeune fille qui peut modifier la météo et faire apparaître le soleil. Alors, c'est un film romantique, et si les films de Makoto Shinkai parlent d'adolescents, c'est que pour lui, le cinéma a un rôle envers eux.
Je pense que les films d'animation sont avant tout destinés au public adolescent. La période adolescente est une période initiatique durant laquelle on apprend pour la première fois qu'il existe des gens qui sont plus importants que soi-même. C'est une période décisive et je voudrais vraiment encourager ces jeunes à travers mes films en leur montrant ce que leur vie sera dans le futur.
J'ai reconnu la voix pour le doublage de Ghislain Bitou-Fontanus et je découvre avec surprise qu'il parle couramment le japonais. Laurent, vous parlez des Enfants du Temps comme d'un film écologique et fantastique.
Oui, alors écolo, voilà, c'est la pluie qui tombe durant tout le film. Il raconte Makoto Shinkai qu'il a été tout simplement influencé par le changement climatique qu'on a vu encore cet été avec la multiplication des typhons. Quant au fantastique, c'est vrai que tous ces films aiment entrecroiser
La temporalité, alliez-vous dire. Je suis surpris moi, par l'absence de marionnettes par rapport au typhon.
C'est-à-dire ?
Bah oui, un typhon les petites marionnettes.
Oui, exactement.
Allez-y,
très bien. Et donc, il aime entrecroiser les temporalités, il aime proposer même des récits compliqués. Et si je vous dis tout ça, vous pensez forcément à un romancier très célèbre au Japon qui s'appelle Haruki Murakami. En fait, Makoto Shinkai a fait des études de littérature à l'université de Tokyo et il adore cet auteur japonais dont on connaît évidemment le roman 1Q84, des romans qui dévient toujours vers le fantastique.
Ce qui m'a attiré le plus dans ces romans, c'est le fait qu'ils disent que la solitude est finalement quelque chose de très positif. Généralement, dans les œuvres artistiques, et en particulier dans les films d'animation, on dit qu'il faut avoir un lien avec les autres, que la camaraderie est très importante. Mais les romans de Murakami m'ont fait bien comprendre qu'en fait, la solitude peut être quelque chose de très bien.
Laurent, je vous interromps juste une seconde. Ludivine, vous avez doublé pas mal de films d'animation. L'animation japonaise, c'est quelque chose qui vous plaît ou
ouais, j'aime peu. Beaucoup. C'est quelque chose que je partage avec mes enfants. Et j'avoue que oui, Miyazaki, c'est un membre de la famille, quoi. Mais là, moi, je connaissais pas ce réalisateur. Je vais emmener mes filles voir ça.
Très bien.
C'est hyper romantique.
Bah oui, ça.
Et très fantastique. On comprend pas forcément tout. Comme Murakami, on va dire.
Mais justement, côté films d'animation, quelles sont ces références ?
Alors, justement, ce qui frappe, surtout chez ce réalisateur japonais, c'est la beauté des images. Vraiment, le souci du détail. On voit au début du film un Tokyo hyper réaliste, ouais, avec ces manga cafés où les étudiants pauvres, vous savez, peuvent aller dormir la nuit et prendre une douche le matin, ou les bars pour les jeunes filles, les bars de jeunes filles pour adultes, je veux dire. Mmh. Et puis, il y a un rythme de l'animation qui est vraiment très cinématographique, ouais, au sens point de vue, prise de vue réelle, mmh, avec des fois des choses très lentes, des fois des scènes d'action. Et je lui ai donc posé, effectivement, quelle était lui son inspiration en termes d'animation et quel était son réalisateur d'animation préféré.
Dans l'animation japonaise, Hayao Miyazaki est mon réalisateur préféré. Je me souviens encore aujourd'hui du choc que j'ai eu quand j'ai découvert Le Château dans le Ciel. Ce film montrait qu'un monde complètement inconnu existait. J'y trouvais quelque chose d'excitant. Je voyais qu'il pouvait y avoir des rencontres merveilleuses dans ma vie à l'avenir. Cette vision m'a bouleversé et m'a donné une sorte d'espoir dans la vie.
Alors c'est un film, Le Château dans le Ciel, qu'il a découvert à l'âge de 22 ans. Il y a des points communs entre Miyazaki et Shinkai. Tous les deux dessinent leur storyboard, ce qui est rare dans l'animation, et écrivent évidemment le script et le scénario. Et puis tous les deux font des films, non pas en images de synthèse, comme tous les Disney aujourd'hui, mais voilà, en deux dimensions, comme on dit. Maintenant, sa vision est différente de celle de Miyazaki, parce qu'il y a toujours le côté conte, mais voilà, lui, il est né à Nagano, il est venu en ville, et il raconte plutôt souvent des histoires qui se passent dans la ville, alors que Miyazaki aime plutôt, on va dire, prôner le retour à la nature et raconte la beauté de la nature. Voilà.
Pour conclure, c'est le film que vous conseillez, vous a emballé, qui révolutionne ou qui change quelque chose dans
On est vraiment dans l'animation japonaise, c'est-à-dire qu'on part du détail de la vie contemporaine et on part dans le conte et on comprend plus très bien. Et évidemment, pourquoi c'est pop aussi, j'ai oublié, Antoine. Bah parce que la musique est hyper pop.
Bah évidemment, c'est pop ça.
Et elle est signée par un groupe très célèbre au Japon qui s'appelle les Radwimps. Mmh. Ça aussi, c'est la J-pop.
Très bien. Ludivine, êtes-vous convaincue? Allez-vous vous ruer en salle pour voir ce film?
Moi j'aime bien l'idée de j'aime bien l'idée de tout d'un coup une fable, mais qui prend sa source dans l'urbanité, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le cas de Miyazaki. Mmh.
C'est plutôt le cas de son compère Isao Takahata, qui lui racontait souvent des histoires plus urbaines.
Ouais, c'est vrai.
Comment va-t-il, Isao Takahata?
Il est décédé il y a un an.
Donc pas très bien, du coup.
Pas très bien, je crois. Mais c'est lui, à lui qu'on doit un film incroyable qui s'appelait Le Tombeau des Lucioles. Vous connaissez Le Tombeau des Lucioles?
Oui, bien sûr.
C'est magnifique.
Et puisqu'on parle de Netflix, il y a aussi un excellent dessin animé, Klaus.
Oui, alors c'est
un autre registre.
Merci, Charline.
Dont la voix est assurée par Ludivine.
Ludivine Sagui. Rien que pour ça, je vais aller le voir, tiens. Bon, merci, mon cher Laurent Vallière. Merci. Les Enfants du Temps, ce nouveau film est en salle depuis mercredi.
Arigato, je dirais.
Arigato. Oui, au chocolat, s'il vous plaît. Alors, Ludivine Sagui, nous sommes vendredi, et ce n'est pas seulement la veille du week-end pour aller faire des soldes, c'est aussi le jour de livraison du grand n'importe quoi, le magnéto d'Alexandre Verret. Allez, je vais le chercher. C'est quoi ça? Dieu?
En personne, mon enfant.
Alors, je comprends, d'accord, on parle de The New Pope et vous apparaissez, vous êtes vraiment partout. Quoi. Mais qu'est-ce que vous faites ici au juste?
Je suis venu te remettre le magnéto du grand n'importe quoi.
Oui, c'est bien ce que je disais, on est vendredi. Mais enfin, merci quand même.
Sergent Jenkins, vous ne dites rien. Il y a un problème?
Eh bien, commandant, c'est tout simplement parce que Zizi, depuis ce matin, cacapoudin, toutes mes répliques ont été revisitées par le fils de 5 ans du scénariste, Broodface. Voilà pourquoi je ne dis rien. Kéké, poil, nanus.
N'importe quoi.
Alors ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça non plus. Ah, c'est ça qui n'est pas ça. Ah non, c'est pas ça non plus.
N'importe quoi.
Quand la nuit tombe sur l'Arizona, parfois je m'endors en jouant de l'harmonica, et ça fait.
grand n'importe quoi d'Alexandre Verret. Eh bien, passons du grand n'importe quoi à God Only Knows, justement des Beach Boys, évidemment, pour terminer ce pop-up.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Les Beach Boys, God Only Knows, Dieu seul sait, pour terminer ce pop-pop-pop papal. Merci ma chère Ludivine Sagnier, merci infiniment de nous avoir rendu visite.
Merci Antoine.
The New Pope, la saison 2, c'est l'excellente série de Paolo Sorrentino et c'est sur Canal à partir de lundi à 20h50. Merci Laurent Vallière.
Merci.
Arigato, à bientôt. Merci à l'équipe de pop-pop-pop, Ghislain Bitou-Fontanus à la réalisation, à la technique Ludovic Asselot, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Simon Restat, Mathias Tapi, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Lundi dans Pop Pop Pop, Elsa Zilberstein et Thomas Bideguin. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse, bien sûr, à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt comme dit Dieu à la fin de ses tutos sur YouTube,
abonnez-vous à notre podcast.
Absolument, et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.